you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sarah Hellermeyer, Florian Guettet, Christophe Rioux pour parler ensemble de Traverser la lumière, c'est à la piscine de Roubaix. Otto Wagner, maître de l'art nouveau viennois, c'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine. You, œuvre de la collection Lafayette Anticipation, musée d'art moderne de la ville de Paris. Puis un coup de cœur de Sarah Hellermeyer pour Sculptures infinies, et collection de moulage à l'ère digitale, c'est aux Beaux-Arts de Paris. Nous ouvrons cette dispute avec Traverser la lumière, présentée à la piscine de Roubaix dans le sous-titre explicite. Le projet Bazaine, Bissière, Elvire Jean, Lemoyle, Mansier, Saint-Gier, art français non figuratif 1945-1985. On a compris de quoi il s'agissait. Une exposition qui achève ici son itinérance. Après le musée Granet d'Aix-en-Provence, le Kunstmuseum Picasso de Münster en Allemagne, elle a été organisée en collaboration avec la Fondation Jean et Suzanne Planck, à partir d'un ensemble d'une centaine de toiles et dessins réunis par un collectionneur suisse, complété par quelques prêts d'institutions françaises et suisses. Les commissaires sont Florian Rodary et Maïlys Favre, en collaboration avec Adelin Madeleine Perdria. On va tout d'abord écouter l'un d'entre eux, Jean Bazaine, dans le documentaire que lui avaient consacré Pascal et Jérôme Bonny en 1982.
Ce qui serait intéressant, ce serait de montrer que le peintre cherche le même tableau toute sa vie, mais qu'il croit perdre son chemin. Il le perd en effet. À chaque toile, le recherche, le retrouve sous d'autres formes, sans le savoir, etc. Alors c'est là que ça m'avait donné l'idée d'un autre titre, qui aurait pu s'appeler « Les chemins de la création ». Et l'image suivante, je voyais la phrase de Saint Jean de la Croix, « Car en ce chemin, perdre son chemin, c'est entrer en chemin ». Alors j'ai passé ma vie à perdre mon chemin pour entrer en chemin. Ça vraiment, c'est comme ça que ça se passe, hein. Pour moi, pour tout le monde.
Voilà l'un d'entre eux. On va parler des autres, mais avant tout cela, un premier tour de table rapide pour recueillir vos sentiments, votre sentiment sur cette exposition Traverser la lumière. Florian Guettet.
Ça aurait pu être une expo naphtaline, et pas du tout. Je trouve que c'est une très belle façon de découvrir ces peintres et de les mettre en lumière.
Sarah Hellermeyer.
Plus que traverser la lumière, je crois que c'est une exposition qui voudrait faire traverser les âges, hein, à ces peintres un peu oubliés. Je ne sais pas si ça fonctionnera, le temps nous le dira.
Ouais, il faudra savoir si ça fonctionne sur vous, vous nous le direz tout à l'heure. Christophe Rioux.
Comment les Américains volèrent la lumière?
Ça c'est une hypothèse. Florian Guettet, le parcours de cette exposition dans ce si beau lieu qu'est la piscine de Roubaix.
Alors d'abord pour situer, dire que ce groupe, c'est un groupe un peu informel, c'est encore plus forcément théorique, qui est rattaché à la Nouvelle École de Paris, donc un groupe qui s'est constitué dans les années 40 et 50, et qui a été effectivement un peu négligé par les livres d'histoire au profit de la peinture américaine. Et cette expo cherche un peu à les réhabiliter, mais surtout à en montrer les affinités esthétiques. Alors on commence assez logiquement par les inscrire dans la tradition, dans les recherches de leurs contemporains ou de ceux qui les ont précédés, depuis Bissière qui se réfère à Monet, à Bonnard, jusqu'à Mansier qui se réfère lui plutôt au surréalisme, au fauvisme, au cubisme, une influence qu'on peut voir très nettement dans Une jeune fille au chat. Et puis ce cubisme en fait va introduire à la géométrie, et dans la première salle qui fait vraiment débuter l'exposition, on voit le motif de la grille se décliner entre toutes leurs œuvres, qui va être en fait un prélude aux vitraux qui vont pouvoir constituer ou élaborer la décennie suivante. et qui va organiser peut-être la transition vers l'abstraction, ou en tout cas la non-figuration, pour reprendre le titre. On voit là une sorte d'unité quand même chromatique, avec des compositions qui sont très structurées, bleu, orange, verte, depuis Saint-Gilles, qui est peut-être le plus abstrait de la bande, jusqu'à Bissière, qui a un pinceau beaucoup plus doux, en passant par le Moelle, qui est beaucoup plus sombre, et puis Elvire Jean, que je ne connaissais pas, qui est peut-être la plus inconnue du groupe, avec des petits formats qui sont assez étonnants. La salle suivante présente plutôt un focus sur Bissière, avec trois œuvres du début des années 50, un triptyque qui pourrait constituer un retable, mais pas du tout, puisque Bissière est plutôt animiste, on va dire, plutôt que catholique ou même religieux, et il tire davantage ses références du côté du primitivisme plutôt que de l'art sacré. Alors on voit cette esthétique très fragmentée, un peu débordante, avec des cadres dans les cadres, hein, quelque chose qu'on retrouve très très fort chez Bissière. Et puis après Bissière, on a un autre focus sur Saint-Gilles, cette fois, avec six œuvres réunies. Donc une œuvre là aussi encore non figurative, hein, c'est acté, avec du bleu nuit, du rouge, qui ressemble déjà à du Miro. Et puis on les met en regard d'autres œuvres qui sont posées à la verticale, ce qui là aussi rappelle les vitraux, même si on ne nous montre pas les vitraux, qui pourraient être évoqués dans le titre, hein, traverser la lumière bien sûr. Et puis ensuite on a les deux salles suivantes qui constituent vraiment le cœur de l'exposition. Elles sont présentées de manière traversante, donc on peut regarder à travers elles les continuités entre les différents peintres. On a une grande toile de Mancier qui vient articuler tout le propos, qui s'appelle Le Tumulte. Alors c'est une sorte de vague très sombre, très sanguine, qui se répand dans des sortes de coulées de lave dont on ne sait pas si c'est de l'encre ou du sang. Et puis à côté des tableaux très fins d'Elvire Jean ou de Le Moelle qui montrent une forme de dynamisation en fait de la composition, avec des éclairs, des taches et des motifs aquatiques qui dialogue très très facilement grâce à l'accrochage. Alors, je sais que Florian Rodary, un des commissaires, a beaucoup œuvré là-dessus et je voudrais le saluer puisque le l'accrochage est très réussi, il me semble, à ce niveau-là.
La dimension critique vient après.
D'accord. Mais Tumulte, en fait, pour dire qu'il dialogue très vite avec une autre toile de Mancier qui s'appelle Torrent, mais aussi avec des terres brûlées de le Moelle. Et ces motifs-là viennent introduire assez logiquement, assez naturellement, et accompagner finalement le regard vers deux salles qui sont consacrées plutôt à des motifs à queue. Par exemple, Ouessant de Le Moelle, qui sont une sorte de bouquet de vagues ou de coraux violets, bleu, vert, délimité par un blanc qui est extrêmement tonique. On enchaîne avec une salle très colorée, très rose, très violette, rouge, orange, bleu, en tout cas quelque chose de beaucoup plus optimiste, plus aéré, plus évidé dans les compositions aussi, avec des œuvres de Bazaine absolument fascinantes, des sortes de paysages cellulaires ou alors un champ de paille qui est extrêmement lumineux. Et puis Elvire Jean va assurer la transition avec une sorte de réduction à des quasi monochromes et un geste très répétitif. Alors ces compositions bleu pâle, très très ou rose clair. L'abstraction, en gros, se radicalise à ce moment-là. La salle suivante, c'est une grande composition bleue de Saint-Gilles qui, là, marque vraiment ses affinités avec Miro. Hein. C'est quand même très difficile à éviter, en tout cas, ou à ignorer. Et enfin, les dernières salles sont consacrées aux travaux plus théologiques, plus liturgiques, puisqu'on retrouve les quatre magistrales passions de Mancier, qui ont été faites dans les années 80. Et puis ensuite, la grande réalisation, en fait, toute l'exposition tire vers ce but-là, de la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de M, donc une chapelle qui est non loin de Roubaix, une commande de 54 pour laquelle Mancier a à la fois fait les tapisseries, réalisé les chasubles, mais évidemment les vitraux pour lesquels on nous a conviés.
Ouais. Sarah Hillermeyer, après cette riche présentation de Florian Guettet, alors est-ce que ça fonctionne sur vous ou pas ?
Je saurais pas vraiment dire. En tout cas, ce qui est certain, enfin, ce qui me semble assez incontestable, c'est que, au regard d'une certaine histoire de l'art, qui était encore celle des avant-gardes, dans les années dans lesquelles émerge la nouvelle école de Paris, c'est sûr que ils ont aujourd'hui, on peut comprendre qu'ils aient une place non négligeable, mais néanmoins, quand même, un peu, inférieure à celle des expressionnistes abstraits américains, qui étaient beaucoup plus radicaux dans leur peinture abstraite. Mais, donc d'ailleurs, pour rappel, comme l'a suggéré Christophe, ce qu'il faut voir, c'est les années dans lesquelles émergent ces peintres-là. Ce sont donc les années 40-50, et c'est le moment où le centre de l'art occidental se déplace, dit-on, de Paris à New York, avec d'abord les peintres expressionnistes abstraits, justement, qui sont Jason Pollock, Barnett Newman, et qui sont soutenus, d'ailleurs, ces artistes-là, par Clément Greenberg, qui est un critique d'art très influent, et aussi maintenant, comme on le sait, par la CIA, puisque certains des membres de la CIA, hein, ce sont des documents qui sont officiel aujourd'hui, travailler au MoMA, donc pour permettre eh bien la valorisation de ces œuvres-là et leur circulation à l'international. Donc néanmoins, ils étaient quand même reconnus, ces peintres. Et il y avait une reconnaissance du milieu en France, à l'étranger, dans les années 50 et 40. C'est plutôt à partir des années 60, et avec la, en particulier la Biennale de Venise de 1964, où, que là, il passe un peu en dessous des radars, même en France, puisque c'est l'Américain Robert Rauschenberg qui obtient le Grand Prix.
Donc, c'est la première fois pour un Américain.
Exactement. Et l'année d'avant, d'ailleurs, c'était, deux ans avant, c'était, il me semble, Manessier, justement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à la même époque, il y a des peintres en France comme Pierre Soulages, qui a actuellement une exposition au Louvre, et Hans Hartung, en ce moment donc au même VP, et qui sont par contre, eux, restés, ont traversé les époques, peut-être justement parce que ils étaient leur pratique était davantage radicale, et plus proche aussi des peintres expressionnistes abstraits américains. Et on reprochait aux peintres de la seconde école de Paris de fabriquer finalement un art un peu d'artisan de l'ordre de la joliesse et qui serait toujours tributaire de la touche impressionniste et de la technique impressionniste, ce qui est assez juste, même si c'est une forme d'impressionnisme abstrait, pourrait-on dire.
Christophe Rio, alors on a beaucoup évoqué le vitrail, il faut se déplacer aussi pour en voir in situ, c'est un des points qui vous intéresse ou qui vous aurait intéressé peut-être.
Oui, et je voudrais revenir sur ce sous-texte de l'exposition et cette histoire un peu d'injustice historique, parce qu'effectivement, avec les Américains qui auraient un peu volé cette lumière à ce groupe de peintres, et c'est dommage parce que précisément la singularité de ce groupe, qui est un groupe d'amis aussi, qui est un groupe qui s'est constitué d'une façon un peu particulière. Ils ont pu avoir de grandes rétrospectives au Grand Palais jusque dans les années 80-90. Ils ont été présents dans les collections des Fracs. Donc c'est pas une totale disparition, mais on a le sentiment qu'ils ont perdu leur code, qu'ils sont passés de mode et que cette exposition veut réparer une injustice. D'ailleurs, le commissaire de l'exposition Florian Rodari a carrément titré un de ses textes contre l'indifférence des institutions culturelles. Donc c'est le point de départ,
c'est pas faux.
Ce qui est pas faux, puisqu'effectivement, on a une phase d'oubli relatif. Et puis, effectivement, ce point de vue par rapport aux Américains. Mais on parlait vitrail. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont tous, à un moment ou à un autre, eu une pratique de vitrailliste, donc touché à ce qui permet réellement de traverser la lumière. Peut-être parfois plus d'ailleurs que leur peinture. Et ce que je trouve très intéressant chez eux et qui fait que cette espèce de rivalité mimétique avec les Américains qui est présente dans le parti pris de l'exposition, ça le limite un peu, c'est que leurs influences sont tellement variées, les mosaïques byzantines, les fresques romanes, la peinture médiévale, et puis ce goût pour le vitrail qui les singularise. Et je trouve que le fait d'être anglais sur cette injustice historique nous cache peut-être un peu cette dimension du vitrail qui pourtant est omniprésente. Effectivement, la couleur est une fête dans cette exposition. Alors il y a aussi la question du non figuratif, puisqu'il se positionne comme refusant l'abstraction, le conceptuel. Il revendique des héritages très variés, mais quand on regarde un petit peu le parcours de certains d'entre eux, je pense à Bissière, qui fait parfois penser à Vira da Silva, peut-être même de temps en temps à Mondrian, en moins bien, mais on a effectivement souvent des influences dont ce groupe a parfois du mal à se dégager. Alors après, Florian l'a évoqué, je trouve qu'il y a des thématiques qui ressortent véritablement. Les thématiques marines fonctionnent bien chez ces peintres, les paysages d'ailleurs en général, mais on a une salle consacrée au mouvement d'eau, au ressac, aux vagues, aux embruns. On peut y voir une référence explicite à la mythique série des nymphéas de Monet, mais là où par exemple Manessier est le meilleur, c'est quand il s'attaque à la baie de Somme, c'est-à-dire à un endroit tellurique où la mer se mêle au nuage. Et Jean Bazaine, c'est pareil, ce sont les nageurs ou les plongeurs qui lui permettent d'opérer un glissement de l'aérien à l'aquatique. Et enfin, Florian l'a évoqué, Jean Le Moal, moi je suis tout à fait d'accord, Ouessant et le chef-d'œuvre, c'est une grande toile qui offre une expérience immersive et on sent presque les embruns au large d'Ouessant.
Florian Guettet, je vous ai interrompu un peu sur la question de l'accrochage, mais que vous vouliez en effet souligner la qualité de celui-ci en tout cas.
Oui, pour ces regroupements, parce que effectivement c'est un groupe qui est tellement hétéroclite que ça pourrait être difficile de penser ensemble sans rendre artificiels des liens, etc. Mais il y a effectivement de vraies affinités plastiques, thématiques, qui permettent. Et puis je crois qu'en fait tous, et l'accrochage le rend bien, se situe à une forme de point seuil un peu limitrophe où ils sont dans une forme de révérence avec la tradition et ils ne veulent pas en fait concéder au progressisme, aux ruptures trop radicales en fait de la peinture qui arrive. Et donc ça les maintient dans une non catégorie qui est ce non figuratif, qui n'est pas du figuratif, qui n'est pas de l'abstrait. Donc on se définit en négatif. Mmh. Et c'est assez prégnant, enfin en tout cas ça se voit de façon très notable dans deux motifs dont que j'ai à peine évoqué mais sur lesquels j'aimerais revenir, qui sont la grille et l'eau. Parce qu'en fait, traverser la lumière, c'est vrai que ça pourrait être presque un faux ami. C'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à voir cette production des vitraux qui n'arrive qu'à la fin de l'exposition, même si effectivement ils ont tous eu une production, ce qui est assez rare, parce que à part effectivement Soulages et puis Natif, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Donc eux, ils ont ça en commun. On ne voit pas forcément ces vitraux-là. Par contre, on voit des manières de faire traverser la lumière, soit à travers la grille, soit à travers l'eau. Et la grille, Rosalind Cross avait beaucoup travaillé là-dessus en disant que c'était peut-être l'emblème de la peinture d'avant-garde qui prenait le relais en fait de la transcendance, hein, notamment chez Mondrian, c'est-à-dire comment la grille elle pouvait être une forme de géométrie presque mystique, en tout cas remplie d'une certaine charge. Et de l'autre côté, on a l'eau qui est par exemple chez Kupka. Moi, je me rappelle, j'avais été frappé Kupka quand il commence l'abstraction, avant vraiment qu'il ait ses premiers gestes radicaux. Bah, il peint des lacs, il peint des baignades, il peint tout ça. Et c'est vrai que l'eau permet une sorte d'abstractisation. Enfin, en tout cas, de rendre plus abstrait la nature. Et là, c'est très très clair. C'est-à-dire que du moment où il commence à faire des marines, eh bien, on commence à avoir des paysages qui ne sont plus des paysages du tout figuratifs ou réalistes. Par exemple, des paysages complètement cellulaires qui m'ont beaucoup marqué. Ou Tumulte, effectivement, de Manissier aussi, qui est une pièce particulièrement forte.
Sarah, il y a un meilleur quelques mots encore sur cette exposition à la piscine de Roubaix, Traverser la lumière.
Oui, quand même, je sais pas si je l'ai dit, mais je trouve que les toiles, il y a des toiles extrêmement belles et réussies, hein. J'ai pas de là-dessus, ça ne préjuge pas, je veux dire, leur place dans l'histoire, de la qualité des pièces présentées. Et comme le disait également Florian, je pense que ce qu'on peut repérer, c'est même si les langages peuvent être différents les uns des autres, hein, picturaux, mais ils ont quand même un trait commun qui est, comme je le disais, qui pourrait être caractérisé par l'idée d'impressionnisme abstrait, qui consiste donc en fait à non pas représenter la nature dans ses apparences extérieures, mais à traduire les forces et les énergies qui la traversent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, parce qu'on parle souvent ici là de vitraux, ils ont chacun d'entre eux aussi à un moment ou à un autre à donner. Peut-être parce que justement, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le rapport à la religion chrétienne, hein, qui est quand même assez fort chez ces peintres-là, en particulier pour un peintre comme Manessier et Elvire Jean. Qui était, si l'on en croit le catalogue, de fervents chrétiens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette foi, elle se confond chez eux, il me semble, à une forme de panthéisme. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Manessier que le chrétien, je cite, ne doit pas s'éloigner des forces de la nature. C'est-à-dire que précisément ce qui est convoqué, c'est pas une force supérieure transcendantale, mais au contraire des forces qui seraient immanentes à la nature et qui traverseraient entre les éléments du macrocosme au microcosme, qu'ils soient ces éléments issus du règne végétal, animal, humain ou minéral. Mais en tout cas, et c'est ce qui donne lieu justement à ces peintures avec des grilles, des lignes qui partent un peu dans toutes les directions. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi, dernière chose, que leur intérêt pour l'art médiéval, puisqu'au Moyen-Âge, justement, comme le dit Bazaine, que je cite, l'homme avait parti lié avec les astres, les éléments, notre sœur l'eau, notre frère le feu, avec le règne minéral, végétal, animal. Et il ajoute aussi que la vraie sensibilité commence lorsque le peintre découvre que les remous de l'arbre et l'écorce de l'eau sont parents, jumeaux les pierres et les visages.
Christophe Rieu, enfin, pour conclure cette séquence sur ce traverser la lumière.
Oui, je crois qu'il faut évoquer les passions de Manessier, la reprise du thème de la passion du Christ avec quatre grands formats qui correspondent à chacun des quatre évangélistes. Et moi, ça m'a fait penser à des voiles de Véronique ou à des linceuls de Turin avec l'image du Christ. Et effectivement, il y a aussi un lien avec un lieu qui est évoqué dans l'exposition, enfin, qui ne fait pas à proprement parler partie de l'exposition. l'exposition, c'est une chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Thérèse d'Ème. Et j'ai eu la possibilité de la visiter, de la découvrir. Elle est située dans les environs de Roubaix et Manessier y a réalisé un mur de lumière. C'est donc une chapelle qui a été construite dans un quartier ouvrier avec une histoire assez particulière, et je trouve que là, effectivement, on a une vraie réussite et qu'on arrive littéralement à traverser la lumière pour le coup.
Bon, louons la piscine de Roubaix parce qu'on se plaint suffisamment qu'il y ait des expositions Picasso et Picasso et Picasso et Picasso. Là, on a l'occasion de découvrir d'autres peintres un peu trop oubliés. Dans Traverser la lumière, c'est jusqu'au 2 février, la piscine de Roubaix. Il y a un catalogue qui est édité par 5 Continent Édition. Nous allons parler d'Otto Wagner, d'artiste contemporain, et puis de Lola Gonzalez.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique avec Otto Wagner, maître de l'art nouveau viennois, c'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. C'est dans le cadre de sa saison viennoise. L'exposition est en effet conçue et réalisée en coproduction avec le Wien Museum pour commémorer le centenaire de la mort d'Otto Wagner. C'est la première exposition monographique qui lui est consacrée en France. Alors, nombreux commissaires, Hervé Doucet, Andreas Nerhaus, Eva Maria Oroz, assistés par Émilie Regnault et Florence Alloran. Pas de scénographe mentionné dans la présentation de l'exposition, hélas. Arrêter de danser et parler d'Otto Wagner avec un premier tour de table rapide sur cette exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Sarah Hilaire Meyer.
Une belle exposition de dessins, surtout de dessins, qui nous rappelle que la modernité architecturale ne se réduit pas au fonctionnalisme.
Christophe Rio.
Une rétrospective très dense sur un architecte qui fit sécession.
Le jeu de mots sera explicité dans un instant. Florian Guettet.
Le faste de la Vienne impériale et la fureur de la modernité pour cet architecte que je ne connaissais pas.
Moi, je connaissais certaines de ses œuvres, mais pas son nom, comme quoi. Christophe Rioux va nous faire vivre un peu le parcours de cette exposition.
Oui, c'est une exposition à la fois chronologique et thématique qui s'appuie sur celle qui a été présentée au Wien Museum en 2018, mais elle a été repensée pour s'adresser à un public plus large. L'idée générale, c'est de retracer la carrière d'Otto Wagner, qui n'a pas connu que des succès, loin de là, et ça, c'est un aspect quand même très intéressant. D'emblée, on pose le cadre, Vienne fin de siècle, on a droit au buste en plâtre, au portrait de l'épouse en seconde noce, à des reconstitutions panoramiques de la Ringstrasse, ce boulevard circulaire surnommé le Ring, l'anneau. Les premières salles sont très immersives, avec un dispositif de period room qui reconstitue des décors d'époque. Nous sommes au cœur de la Mitteleuropa et d'un empire austro-hongrois au paroxysme de sa puissance. On voit qu'Otto Wagner est un bourgeois installé, mais que c'est surtout un architecte de papier, puisqu'il est l'homme des projets non retenus, des concours sans lendemain. Il a certes quelques commandes privées, mais les projets parfois trop ambitieux, comme un ensemble monumental qui a été qui était dédié aux arts et nommé Artibus, un projet assez incroyable, ces projets-là restent des projets. On a affaire véritablement à une architecture de rêve, on évoquait effectivement les dessins. Parfois, on pense aussi aux bandes dessinées de Skutten et Peters, une architecture de rêve au bord d'une ville méridionale. À la fin du siècle, pourtant, quelque chose va frémir dans sa vie. C'est l'arrivée de la sécession viennoise. Il est enseignant le pavillon de la sécession se met en place. Et l'aventure des soldats de la modernité. Là, il se passe quelque chose. Dans l'exposition le montre très bien. Otto Wagner va se faire connaître aussi pour les immeubles de rapport, ces immeubles avec des appartements à louer. Et là, on verra notamment la fameuse Majolica House, la maison des Majoliques. On constate cependant qu'il n'est pas qu'un architecte de façade dans l'exposition. Il réalise des objets, des fourchettes par exemple, des poignées de porte, et même des choses étranges comme des bougeoirs pour sapins de Noël. Otto Wagner, c'est ce qu'on voit dans cette exposition, il pratique un art total, c'est une sorte de Guimard, et pour autant l'exposition n'oublie pas ses réalisations majeures, j'en citerai deux. D'abord l'église avec sa coupole dorée et sa blancheur immaculée Saint-Léopold à Steinhof, seul rescapé d'un ambitieux projet d'hôpital psychiatrique. Et la Poste Sparkasse, la caisse d'épargne de la Poste, qui est souvent présentée comme son chef-d'œuvre absolu, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce que nous dit l'exposition, c'est qu'Otto Wagner n'était pas qu'un architecte, mais surtout un urbaniste, avec son rôle dans la construction du métro de Vienne, le Stadtbahn, et surtout à travers son livre, La Grande Ville. Et on pourrait peut-être dire, pour synthétiser tout ça, qu'il a à la fois rappelé Guimard, mais en même temps préfigurer Le Corbusier.
Bon, on a eu plutôt une bio qu'une description de l'exposition, mais est déjà largement une part critique. On va avoir quelques images supplémentaires. Florent Guettet.
Oui, en fait, Otto Wagner, c'est à la fois un architecte moderne et un architecte de la modernité. Donc on trouve vraiment cette sorte de tension entre deux styles. D'abord le style impérial, qui est marqué par ses références historicistes, avec le tourné vers la Renaissance, le baroque, avec les grands mouvements de l'art occidental. Et puis on est au moment où la modernité s'annonce, avec des métropoles qui grandissent à une vitesse grand V, de l'industrialisation qui accélère les modes de vie, les goûts. Donc c'est une période assez sensible en fait pour l'art comme pour Otto Wagner. Et Otto Wagner, il est pris entre ces deux feux, et donc on le voit particulièrement dans l'exposition. Il y a beaucoup de reconstitution en fait de lieux. On peut peut-être s'arrêter sur quelques-uns. Il a notamment fait tous les bureaux du journal Die Zeit en 1912. Donc là, on n'est pas vraiment sur le tout début de sa carrière, hein, mais il reprend en fait l'architecture de ce bâtiment. En fait, la vitrine sert à exposer les dépêches, donc il est important qu'elle soit à la fois visible, fonctionnelle, mais aussi qu'elle puisse attirer l'œil. Donc elle est parée d'aluminium. Il fait lui-même la typographie, donc là aussi une façon d'abonder dans le sens de ce Otto Wagner artiste total. Donc il établit la typographie, il a plaque tout en haut du bâtiment, il a surmonte de lampes électriques rondes, et il conçoit aussi le mobilier, là aussi sobre et fonctionnel mais pas trop, c'est-à-dire que c'est ça qui est assez visible chez Otto Wagner. On lui reproche à l'époque beaucoup son fonctionnalisme, mais lui il n'est pas non plus dans la lignée des modernistes radicaux, on va dire. Pour lui par exemple, la façade c'est une seconde peau pour le bâtiment, donc elle est très ornementée, et quand on voit des reconstitutions notamment de ces villas, de ces appartements privés qu'il prend beaucoup en photo, mais on voit quand même une sorte de charge du motif ornemental, avec des répétitions de motifs entre les tissus des chaises et les papiers peints notamment, donc qui montre une sorte de modernité comme ça à double vitesse.
Sarah Ellermeyer, c'est vrai que des façades, beaucoup. Alors l'exposition, elle trouve évidemment tout à fait sa place à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Est-ce que là encore, vous avez été convaincue
Bah, en tout cas, pour revenir sur la question de la tension qui travaille l'œuvre de Dr. Wagner, je pense qu'elle est cruciale parce que c'est ce qui précisément fait un jalon de la modernité architecturale. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre d'un côté fonctionnalisme et de l'autre ornementation, puisque d'un côté, comme on l'apprend dans le catalogue et dans les cartels, hein, plus que dans les œuvres qui sont présentées, il recourt à des techniques et à des matériaux dits modernes, comme le béton armé, le fer et l'aluminium. Et puis de l'autre, son travail semble essentiellement se concentrer sur la conception des surfaces, c'est-à-dire sur tout ce qui relève de l'ornementation et du décoratif, qui passe par les tapis, les tapisseries de cet intérieur, par les plaques de marbre et les carreaux de céramique qu'il plaque en façade, dont il dit d'ailleurs qu'ils ont une utilité puisqu'ils seraient facilement lavables et donc hygiéniques, plus que des murs seulement recouverts d'enduit. En tout cas, il se trouve qu'à la fin de sa vie, il ne les utilise plus. Alors peut-être qu'il a tiré un trait sur l'hygiène, je ne sais pas. Mais ceci dit, cette tension entre fonctionnalisme et décoratif, elle est propre à l'architecture d'avant-garde de cette époque. Et elle trouve néanmoins chez lui une résolution qui est assez précoce dans ses dernières constructions. Comme on le voit justement avec la reconstitution de l'intérieur de la caisse d'épargne de la Poste de Vienne, qu'il construit de 1904 à 1906. Puisque dans ce cas-là, par exemple, les clous qui tiennent les plaques de marbre en façade, qui sont par ailleurs également maintenus par du mortier, eh bien, ils constituent un véritable motif décoratif, tout comme les plaques d'aluminium qui recouvrent les piliers à l'intérieur du bâtiment et qui les protègent de l'usure, ou encore les carreaux de verre qui sont utilisés au plafond et au sol pour garantir un maximum de lumière, aussi bien au rez-de-chaussée du bâtiment qu'au sous-sol. Donc cette synthèse, d'ailleurs, entre fonctionnalité et ornementation, on la retrouve aussi dans ces derniers immeubles construits entre 1911 et 1913, qui présentent des façades totalement lisses, c'est-à-dire que les fenêtres sont percées et n'ont pas de moulage qui les encadre. Il y a seulement quelques alignements de carreaux de verre et de céramique qui viennent en souligner la structure et inscrire leur nom en façade.
Mais ça, pour le coup, les immeubles, on voit vraiment comment le goût évolue, son goût évolue, mais c'est un peu l'air du temps aussi que Otto Wagner sert. Il suit absolument le développement de sa ville et les immeubles de rapport, en cela, ils sont vraiment assez intéressants à étudier. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Oui.
Jean-Christophe Rioux.
Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur la caisse d'épargne parce que c'est la clé dans le parcours d'Otto Wagner, parce que c'est une des premières fois où finalement il n'est pas le perdant d'un concours. Et pourquoi ? Pour une chose toute simple, c'est qu'il décide d'utiliser des matériaux bon marché. Et donc l'utilisation de l'aluminium notamment pour la tête des clous lui permet effectivement de gagner ce concours. Je dois signaler aussi le fait que moi, quand je suis arrivé dans l'exposition, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur d'une forme un peu d'indigestion. Vous parliez tout à l'heure de la dimension biographique. En fait, elle est omniprésente. C'est Otto Wagner, sa vie, son œuvre, son destin, son destin complexe, ses échecs.
On l'a mieux dans le catalogue quand même, il faut
le
dire.
Oui, oui, oui. Et il y a effectivement un côté qui est peut-être mais très intéressant aussi dans l'ambivalence du personnage qui malgré tout poursuit inlassablement ses projets et donc la caisse d'épargne qu'on évoquait est une vraie réussite. Il faut aussi dire que il va devenir quelqu'un qui a une reconnaissance officielle mais finalement assez tardivement quand on regarde son entrée dans le monde de l'architecture. Bon, il sera même présent sur les billets de banque. Il aura effectivement un rôle éminent au niveau du pavillon autrichien. Donc on voit peu à peu que Otto Wagner arrive à trouver sa forme, son approche, son style et à l'imposer.
Mais pour finir peut-être là-dessus, Florian Guettet, et puis aborder les points que vous aurez, vous, envie d'aborder. Moi, j'ai pas l'impression de savoir qui c'est Otto Wagner après cette exposition.
C'est un personnage duplice, c'est un personnage difficile à saisir, parce que c'est un personnage qui a une carrière très contrastée, qui est parfois très paradoxale. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'est pas reconnu, qui gagne jamais de prix ou de commandes, mais qui est quand même dans les petits papiers de la cour, petits papiers de la bourgeoisie, qui a quand même beaucoup de projets non réalisés, mais aussi des projets qui sont complètement iconiques de la ville et de cette période-là. C'est quelqu'un qu'on attache à la sécession, mais alors qu'il n'a pas du tout fondé, qu'il n'est même pas vraiment rejoint. Il était deux ans après la fondation par ses élèves, notamment Hoffmann et Olbrich. Il en profite en fait pour diffuser ses idées sur l'artisanat, notamment dans la revue Versacrum. Mais donc il est là sans être là, il est important sans être important, il est central tout en étant périphérique. Donc on est toujours comme ça dans des formes de contradictions en fait. Et lui-même en fait doit être certainement certainement un moment frustré quand même dans son parcours, d'autant qu'il a une grande influence sur ses élèves et qu'il y a toute une salle consacrée à son enseignement et à la à la pérennité de son enseignement après lui, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est peut-être plus un théoricien qu'un réalisateur aussi, qu'un bâtisseur. Il a quand même deux ouvrages très importants, l'architecture moderne en 1896 et la grande ville en 1911, qui va avoir une influence considérable. Et finalement on le connaît presque par ricochet, on le connaît par ce qu'il a su faire germer chez certains de ses étudiants. Donc effectivement, Otto Wagner est à la fois omniprésent, enfin c'est un portrait, cette exposition, et en même temps, chaque fois qu'on essaye de mettre le doigt dessus, bah, il nous échappe.
Sarah, il est un meilleur, quelques mots encore.
Oui, bah, disons que par-delà, en tout cas, Otto Wagner, et je dirais même par-delà cette exposition, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est que cette tension entre fonctionnalisme et ornementation dont on a parlé, il me semble qu'elle permet de reconsidérer en fait l'architecture moderne, moderniste, qui contrairement à une vision schématique, ne s'est jamais en fait réduit à un strict fonctionnalisme et n'a jamais non plus totalement évacué toute dimension ornementale. Donc, par exemple, si on pense au père de la modernité, la dimension ornementale, elle peut se déplacer des éléments surajoutés en façade, au choix même des matériaux utilisés. Et c'est ce qu'il faisait dire à Adolphe Loos, qui a écrit Ornement et Crime en 1911, que la noblesse des matériaux utilisés et laissés en quelque sorte bruts, eh bien, était le nouvel ornement de l'architecture. Donc ça peut paraître paradoxal chez quelqu'un qui dit Ornement et Crime. Et puis même, pour aller plus loin que ça, on peut considérer que le fait de vouloir faire reposer la dimension esthétique des bâtiments uniquement sur leur structure porteuse, sur leur système constructif et sur l'agencement des espaces intérieurs, c'est aussi une manière de déplacer la dimension ornementale des éléments qui sont surajoutés en façade aux structures elles-mêmes, qui deviennent en quelque sorte des ornements géants et transforment les bâtiments en sculptures. Donc là, c'est en fait une thèse qui a été développée par l'architecte Robert Venturi en 1972 dans un essai qui est resté célèbre et qui s'appelle L'enseignement de Las Vegas. D'ailleurs, dernière chose à ce sujet, le même Robert Venturi en appelle dans ce même livre à un retour à l'ornementation de façade indépendante de l'ossature du bâtiment. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple aujourd'hui chez des architectes comme Rudy Ricciotti ou Frank Gehry, dont les bâtiments présentent des façades qui sont sans lien avec leur ossature. Donc on voit aussi d'une certaine manière l'actualité d'Otto Wagner, qui s'inscrit plus largement aussi dans une revalorisation de l'ornementation et du décoratif contre un certain purisme qui en fait n'a jamais vraiment eu lieu.
D'autant qu'il peut être extrêmement traditionnaliste aussi. On n'a pas parlé de l'église Saint-Léopold.
Bah, évoqué à peine, oui.
Mais effectivement, enfin, elle est complètement empruntée avec sa coupole dorée à l'architecture byzantine, ce qui est assez surprenant en fait de le voir arriver là. Il y a effectivement toujours les motifs floraux de l'Art nouveau qui sont empruntés à son temps, mais à côté, il y a une révérence. Il va même faire les objets liturgiques de façon très très académique, presque passéiste. Donc c'est vrai que c'est très difficile à qualifier en fait finalement ce rapport au modernisme où il a l'air d'être à l'avant-garde, à la pointe de tout ça, et puis en même temps on n'a pas l'impression qu'il soit le grand leader non plus de la modernité de l'époque.
C'est le mystère, Otto Wagner, maître de l'Art nouveau viennois. L'exposition est visible jusqu'au 16 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Et on ira utilement en complément ou avant d'y aller, après, pendant le catalogue. Coédité par Bernard Chauveau Édition, la Cité de l'Architecture et le Wien Museum. C'est l'heure du coup de cœur de Sarah Hilermeyer, qui a changé pour moi entre 19h03 et 19h41 maintenant, puisque j'annonce un mauvais coup de cœur. Votre cœur est grand. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de place. Et là, du coup, c'est maintenant pour Lola Gonzalez qui le bat pour l'exposition Si tu disais qu'on pouvait voir à la galerie Marcel Alix. Et on aime toujours parler des expositions dans les galeries, dont rappelons-le, l'entrée libre, gratuite. N'ayez pas peur, franchissez les seuils. Sarah.
Oui, alors Lola Gonzalez, c'est une artiste qui réalise depuis un peu moins de 10 ans des films avec son propre groupe d'amis, qu'elle met en scène dans différents contextes, comme une sorte de communauté fictive, dont les membres semblent toujours très liés, mais sans qu'on sache ce qui les fédère, comme s'ils étaient en quelque sorte réunis autour d'un centre aveugle. Et puis par ailleurs, cette communauté, elle semble plus souvent se préparer à une attaque d'un ennemi invisible qui n'arrive jamais, ce qui fait écho à mon sens à la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui en fait à nommer nommer un ennemi, et donc à savoir aussi comment, pourquoi et contre quoi on s'allie. Et donc, pour sa nouvelle exposition à la Galerie Marcel Alix, elle montre cette fois-ci 6 films, où elle fait dialoguer ses amis, ses sœurs et elle-même, dans une langue inventée, qui est incompréhensible pour nous, mais qui semble évidente de leur côté. Les 5 premiers films montrent tout d'abord une personne seule, en train de pleurer, qui se trouve être l'une des sœurs de l'artiste, puis 4 dialogues en duo qu'elle sous-titre hein, par des phrases qui ont trait au langage, au statut des images, à la recherche d'un hymne introuvable, hein, mais aussi à une possible évasion dont on ne connaît pas les raisons ni la destination. Ce qui donne lieu à des échanges assez amusants. On sent qu'il y a une véritable complicité entre les protagonistes hein, qui parlent sans savoir ce qu'ils se disent puisqu'ils énoncent des mots a priori sans signification, mais tout en arrivant malgré tout à échanger, comme si par-delà l'absence de sens, eh bien se partageait entre eux quelque chose de non langagier. Et c'est ce qu'on retrouve dans le dernier film qui est présenté au sous-sol, où cette fois-ci il ne s'agit plus de duo, mais à nouveau du groupe d'amis qui est réuni dans une salle autour d'une table où ils semblent débattre, toujours dans cette langue inventée, et débat que l'artiste sous-titre par des moqueries amicales, des propos plus sérieux aussi sur la nécessité qu'ils ont de devoir s'organiser, de choisir une cible, de penser une stratégie d'attaque, sans que l'on sache, une fois encore, ce qui les rassemble. Donc ce groupe d'amis, comme dans les premiers films de Lola González, il semble réuni, comme je disais, autour d'un vide, mais néanmoins extrêmement soudé, comme par une sorte de texture sensible qui serait celle des sons qu'ils énoncent. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces vidéos constitue une sorte de chant choral, hein, polyphonique, hein, puisque les sons des unes et des autres s'entremêlent au sein de la galerie, comme si finalement l'artiste montrait qu'une réponse possible à l'effondrement des idéologies et des utopies collectives pouvait être l'invention de communautés affectives, ce qui n'exclut pas le politique, mais au contraire, à mon avis, rappelle sa dimension émotionnelle et affective, contrairement à l'idée selon laquelle le politique ne serait qu'une affaire de problèmes techniques qu'on pourrait résoudre de manière rationnelle.
Si seulement. C'est pas le cas. Lola González, l'exposition s'appelle, si tu disais, se déroule, elle est visible jusqu'au 7 mars à la galerie Marcel Alix dans le 20e arrondissement de Paris.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute, c'est l'exposition You, œuvre de la collection Lafayette Anticipation, présentée jusqu'au 16 février au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. La commissaire est Anne Dressen. La scénographie est signée Massiège Fischer. Premier tour de table sur You, Florian Guettet.
Une expo un peu fourre-tout sur l'art ultra contemporain avec des pépites et puis beaucoup de pensifs.
Sarah Lermeyer.
Une exposition qui semble parfois moins dire You que nous, hein, ou us, hein, dans une logique de distinction et de reconnaissance entre initiés.
Christophe Rio.
Des éléments perturbateurs.
Bon, à titre d'exemple, avant que Sarah, qu'on a beaucoup mis à contribution ces dernières minutes, nous fasse la visite, on va écouter un extrait de la bande-son de la vidéo de Rachel McLean, Feed Me, qu'on peut voir dans la section 3 de l'exposition, section consacrée au feu.
People see the sky, instead I wait out in the world up there.
Reprenez tout son cœur. Non, c'est Florent Guettet qui a envie de chanter. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous voulez pas chanter la chanson de Feed Me. Bon, bah, puisque vous voulez pas chanter, Sarah Hillermeyer, un rapide, enfin peut-être plus d'ailleurs même que de faire le tour, c'est d'essayer de comprendre le principe même de cette exposition.
Oui, parce que j'aurais bien du mal à décrire son parcours qui n'existe pas.
Sinon, ce sera une suite, une succession de noms et de pièces. Quoi.
Mais c'est-à-dire que ça, en fait, cette exposition, je crois qu'elle montre toute la difficulté qu'il peut y avoir justement à faire exposition à partir d'une collection dont les œuvres, les artistes et les pratiques sont très différents les uns et les unes des autres. Néanmoins, il y a la tentative de donner une cohérence à tout ça. On peut voir en préambule de l'exposition une note d'intention qui dit réunir des artistes, je cite, qui interrogent et décrivent notre monde en mutation. Donc des œuvres, je cite encore...
C'est un copier-coller de combien d'expositions, en fait,
ça se poursuit en disant des œuvres qui ont en commun de refléter chacune à leur manière les mues de notre monde. Donc autant dire que c'est un propos extrêmement générique, voire fourre-tout, et puis surtout très convenu, puisque au moins depuis Baudelaire et son célèbre texte Le peintre de la vie moderne, on attend des artistes qui se saisissent au moins en partie de leur contemporanéité. Alors on nous dit aussi que le parcours il s'organise à partir de la théorie des éléments, on va savoir pourquoi, occidentale et orientale. Bah pourquoi pas, mais c'est complètement arbitraire. Donc l'eau, le feu, la terre et l'air, ce qui permettrait de constituer des sortes de microclimats, donc je cite humide, chaud, tempéré. Donc très honnêtement, moi j'ai pas eu l'impression de passer des tropiques au Groenland, peut-être que à leurs yeux ça fonctionne. Donc à défaut d'avoir un principe d'organisation et de sélection des œuvres qui aurait vraiment permis de déployer un parcours, moi j'ai eu l'impression d'avoir à faire plutôt un étalage du bon goût du moment avec des artistes qui sont peu connus du grand public mais en revanche très identifiés par le petit milieu de l'art contemporain, comme si finalement comme je disais en préambule cette exposition elle s'adressait plus aux initiés qu'au grand public. Mais néanmoins, il y a quand même des artistes intéressants dont on est heureux de voir certaines pièces, mais sur lesquelles on pourra revenir.
Absolument, c'est ce qu'on fera dans un instant. Christophe Rion.
Oui, je trouvais sur le papier alléchant le principe d'un grand remix de la théorie des éléments avec une pincée d'Empédocle, d'Aristote et un brin de cosmogonie chinoise pour ajouter un cinquième élément, puisqu'il y a un cinquième élément à l'eau, l'air, le feu, la terre, qui est le métal et qui est très présent.
Je crois que c'était l'amour, moi. Mais ah non, c'est un film.
Mais c'est effectivement la question qu'on peut se poser, quoi. Pourquoi pas les cinq sens? Pourquoi pas les sept familles? Et
le sixième sens aussi, pour continuer dans le cinéma, si vous voulez.
Et donc, évidemment, certaines œuvres vont jouer aussi avec notre perception et son dérèglement. Il y a des œuvres quasiment invisibles, cachées. Alors, par exemple, je vous mets au défi de trouver l'œuvre de Cameron Roland, qui est un long tuyau avec un câble blindé, une lampe au sodium, qui est bien planquée dans un recoin du plafond. De la même manière, l'œuvre de Guillaume Leblond, intitulée Landscape, est quasiment invisible à l'œil nu, puisque, par nature...
Mais Guillaume Leblond, c'est quand même... C'est du haut niveau. Moi, j'aime infiniment depuis très très longtemps.
Elle se matérialise uniquement par une fumée qui s'échappe à intervalles réguliers d'un mur. Donc il faut être très attentif, très sérieux quand on visite. Et puis il y a dans la partie R, qui s'appelle précisément R, avec une signalétique, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais chaque partie a un code couleur.
Des fois qu'on s'y perdrait.
Si on s'y perd. Et donc on a les sèche-linges d'Annie Cailly qui proposent une expérimentation sensorielle à travers l'odorat, une œuvre qui ambitionne de faire découvrir le parfum du souvenir et de l'oubli. C'est drôle, je continue sur le cinéma que vous évoquiez, on peut penser à Michel Gondry, à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec cette histoire de personnages qui suppriment leurs souvenirs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai parlé de l'air, mais j'ai évoqué aussi le métal. Et là, on a des choses effectivement intéressantes autour de la question des machines. On a ce distributeur de billets qui en fait ne distribue pas des billets, mais des sentiments, de l'affect de Camille Blatrix. On a une Porsche qui est assez spectaculaire, qui d'ailleurs ouvre. Elle n'est pas la seule, mais en tout cas, elle est très présente au début de l'exposition et qui fait penser à un gigantesque potlatch. L'œuvre s'appelle Cake, et on peut se demander si ce potlatch d'une Porsche Panamera, ça n'est pas un découpage entre quatre parts égales qui ressemble à du sacrifice comme dans le potlatch, mais aussi à du don et du contre-don. Donc on est dans cette partie métal avec beaucoup d'interrogations assez intéressantes.
Oui, mais alors, on note que vous pointez ça et là dans les différentes sections des œuvres qui vous ont sans doute plus intéressé que d'autres. C'est encore une fois, c'est la difficulté d'exposer une collection, Florian Guettet.
Oui, et puis c'est même son désavantage, surtout quand elle est constituée de façon aussi éclatée. Évidemment, ça manque de cohérence thématique. Quand on essaye de pallier ce défaut par la juxtaposition, l'enchevêtrement, le dialogue, l'emboîtement, plus rarement l'opposition quand même. Alors c'est un principe qui pourrait être légitime, mais qui est risqué.
Parce délicat. Que
ça peut appuyer effectivement de
à réussir.
Des sortes de parasitage ou de mauvaise contamination dans quand la lecture d'une œuvre elle va orienter celle d'après et pas forcément à son avantage ou forcément de façon juste. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je trouve que c'est un choix délicat. Je vais pas refaire évidemment la scénographie à la place des commissaires, hein. Mais c'est vrai que la pièce Laocoonte, ça a un affif donc qui est une sorte de contre-proposition à l'idéal de la statuaire classique, associé donc à un poème qui repose finalement cette célèbre question donc c'est un débat entre Winckelmann et Lessing pour savoir comment on doit représenter la douleur. Est-ce que c'est avec réalisme, avec bienséance, avec retenue ou de façon très expressive ou expressionniste. Et là il est entouré de la pièce de l'Ismagore Phénix, de la fresque de Yorgos Sapoundis, c'est-à-dire des œuvres extrêmement formalistes qui orientent finalement l'idée que on est en train de parler de l'échec de la forme, etc. Alors que non, Sadin Fif est du côté de la rébellion, qu'il parle de ce que c'est qu'un sacrifice, que mourir pour ses idéaux, etc., etc. Donc je l'aurais peut-être mieux vu d'ailleurs du côté à côté de la pièce de Katinka Bock, qui sont des stèles brisées posées contre un mur, qui là sont un peu posées en fin d'exposition sans dialogue, hein, pour le coup elles sont un peu orphelines. Donc voilà, effectivement ce principe-là moi je le trouve risqué, il est à double tranchant, donc il faut accepter aussi que tout ne fonctionne pas exactement, surtout quand on a autant de personnalités forte parce qu'après ce sont effectivement des personnalités. Et dans les œuvres qu'on peut voir, qui sont toutes, enfin beaucoup en tout cas post 2000 voire post 2010, hein, ce sont vraiment des très 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 contemporaines.
C'est une jeune fondation. Il y a cette anticipation.
Oui, même si des œuvres.
La collection préexiste.
Voilà, exactement, avec la grand-mère Ginette Moulin.
Absolument.
Mais là, en fait, celles qui sont réunies et choisies, c'est aussi pour montrer une sorte d'instantané du monde, hein, puisqu'on a bien compris que c'était très large comme ambition, en tout cas. Donc, on a l'interrogation sur cette nouvelle technologie, la mise en récit du terrorisme avec Baudelaire, le corps subalterne avec le corps queer et noir de Woodsong, la question postcoloniale avec Julien Creuset ou Abraham Creusville-Glass, la déconstruction des formes identitaires et des rapports de domination chez Lily Renaud de Vert, etc.
C'est un annuaire que nous récite Florian Guettet, qui va laisser la parole parce qu'il reste peu de temps. Vous voulez conclure, pardon.
Non, mais en fait, pour dire que c'est beaucoup, beaucoup de poncifs, que moi, je trouve ça très cynique de mettre une Porsche coupée en quatre et de dire, regardez, c'est comme ça qu'on réfléchit à l'égalité de la distribution et du partage des richesses. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est plus des gestes qui sont très, très, très importants. Et puis, on a beaucoup d'œuvres qui sont quand même des agglomérats de références. Des accumulations d'informations, on ne sait plus exactement où est l'interprétation, notamment à la fin, Ketuta Alexis Mishkivili, par exemple.
Et enfin, Sarah Hilaire Meyer qui va conclure cette séquence sur Rio au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Je crois qu'on peut juste effectivement piocher hein, des artistes, un peu comme cela s'est produit par exemple avec Futur Ancien Fugitif, hein, au Palais de Tokyo. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une crise curatoriale avenue du président Wilson, je ne sais pas. Mais,
une contamination
un thème à la mode, notamment. Donc, mais bon, parmi les œuvres, il y a des œuvres évidemment qui m'ont intéressé, notamment le diptyque vidéo de Woodsong, dont a déjà, enfin, qu'a évoqué Florian, et où on voit en fait deux duos en train d'effectuer des chorégraphies, l'un dans une sorte de terrain vague verdoyant, et puis l'autre dans une salle de danse obscure, éclairée par des néons rouges et bleus. Les deux duos entrent et sortent de l'écran avec des mouvements de caméra très chorégraphiques, qui restituent en quelque sorte leur énergie. Ce sont des corps queer et trans qui semblent parfois en lutte, à d'autres moments en harmonie, en tout cas entrelacés. Et c'est comme si ici on était amené à faire l'expérience d'une logique d'enchevêtrement des individus et des identités qui serait peut-être propre aux cultures queer et trans, par opposition à une logique qui serait celle au contraire de leur séparation. Voilà en tout cas une œuvre, moi, qui m'a fait rester.
Oui, parce qu'il y a des œuvres évidemment et chacun y trouvera, j'imagine. Si on ne peut pas chanter Feed Me tous ensemble, et cette vidéo, on n'en a pas reparlé du coup.
Non, mais on a des œuvres déceptives et quand c'est assumé, je préfère être déçu que mal séduit.
Ah oui, je vois la façon dont vous avez regardé cette œuvre-là et sans doute d'autres auxquelles je pense en ce moment. You, œuvre de la collection La Fée d'Anticipation, présentée jusqu'au 16 février au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Le catalogue est édité par Paris Musée. Le jeu de la dispute, c'est l'heure à laquelle David Dana nous rejoint pour nous poser une question qui nous fera gagner quoi ce soir? Ce soir, des coffrets DVD d'Amaguchi avec les films Senses, Asako 1 et 2 et Passion. Tout cela distribué par Arte. Gros cadeau, grosse question.
Qui a été le maître de Ryosuke Amaguchi à l'université de cinéma de Tokyo?
Alors, on veut le prénom, le nom, l'adresse. Non, le nom suffira. Pour gagner ces coffrets, votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Olivier Arnet. Réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Je serai en compagnie de Lucille Como, de Philippe Chevillier, de François Angelier. Nous parlerons ensemble du Bal des Ombres de Joseph O'Connor, publié chez Rivage, du livre de Robert Zetaler, Le Chant, chez Sabine Vespizer. François Angelier nous livrera son coup de cœur pour Harpo de Fabio Visciliosi chez Actes Sud. Et dans le journal de la dispute, Lucille Como nous interrogera sur les effets de l'affaire Maznev dans le monde de l'édition.